France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une heure en direct et trois rendez-vous. Vous le savez, c'est le programme de votre lundi dans Entendez-vous l'écho. Une question d'actualité pour commencer. Retour aujourd'hui sur le cas Nexperia, entreprise détenue par un actionnaire chinois sous tutelle du gouvernement néerlandais depuis le 30 septembre dernier. Tutelle qui a été levée la semaine dernière. Alors l'Europe est-elle définitivement prisonnière de sa dépendance technologique? Nous en parlerons avec deux invités, Thomas Sopardi et Sacha Courtial. En seconde partie d'émission, un entretien de 30 minutes avec un chercheur ou une chercheuse qui nous embarque dans les méandres de l'histoire économique. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série consacrée à la fabrique de l'expertise économique. Loïpa Muniz-Duarte nous parlera du rôle de la modélisation en économie quand les équations et les machines se mettent au service du politique. Et enfin, à 14h55, Arnaud Aurin continue de tisser la trame de son fil de l'écho. Aujourd'hui, nous parlerons crypto-monnaie. Le tout a été préparé par Anouk Milliot, réalisé et mis en onde par Sorge Leroy. Mais avant cela, une parenthèse pour revenir sur l'actualité écho de la semaine passée. Une semaine où une certaine notion de la beauté a fait tourner les têtes. Mercredi dernier, dans une fébrilité quasiment palpable, l'annonce des résultats trimestriels de Nvidia, ce géant des microprocesseurs utilisé notamment pour l'intelligence artificielle et qu'on ne présente plus. Ces résultats donc sont tombés et ont fait du même coup bondir le cours de cette entreprise qui reste la plus valorisée au monde. Son chiffre d'affaires est en hausse de 62% par rapport à l'année dernière. Mais pour combien de temps, c'est toute la question qui se pose alors que les interrogations autour d'une potentielle bulle de l'IA fleurissent un peu partout. Des interrogations donc autour de l'IA qui se transforment en doutes, qui se transforment eux-mêmes en sombres prédictions puisque vendredi dernier, l'AFP indiquait que les marchés mondiaux s'orientaient vers leur pire semaine depuis début avril. Sous la beauté des résultats de Nvidia, le fond reste inchangé, racontait un spécialiste à l'AFP. Le fond et la forme donc, où l'on se rend compte que la beauté, quelle que soit sa nature, a toujours une valeur. C'est on ne peut plus vrai cette semaine, puisque deux ventes aux enchères ont marqué les esprits. Jeudi 20 novembre, Le Rêve, la chambre autoportrait de Frida Kahlo, a été adjugée pour 54,66 millions de dollars, un record pour une œuvre réalisée par une femme. Quelques jours plus tôt, mardi dernier, le portrait d'Elisabeth Lederer de Gustav Klimt a été vendu pour 236,4 millions de dollars, faisant d'elle la deuxième œuvre la plus chère jamais adjugée aux enchères. Les deux ventes ont eu lieu chez Sotheby's à New York. Sotheby's, dont on le rappelle, l'actionnaire majoritaire est Patrick Drahi. Ce dernier a lui aussi eu une semaine chargée, mais on quitte là sans doute le domaine du beau. Vendredi, on apprenait dans les pages du Monde qu'Altice, dont Patrick Drahi est président directeur général, je le rappelle, Altice donc devrait vendre sa participation majoritaire de 65% dans le géant marocain des centres d'appel Intelsia, à moyen donc pour l'entreprise de réduire sa dette assez colossale, puisqu'elle reste tout de même au niveau de 15,5 milliards de dollars. Et puis je voudrais terminer cette parenthèse sur un hommage. Nous avons appris hier le décès de René Passé, économiste pionnier dans sa façon d'intégrer la question environnementale à la discipline économique. C'était donc un penseur de la bioéconomie et le premier président du conseil scientifique d'Attac. L'économique et le vivant en 1979, l'illusion néolibérale en 2000, restent des ouvrages qui ont ouvert de nouvelles possibilités face à une discipline dont René Passé appelait au renouvellement. C'était en 1981 dans Les chemins de la connaissance sur France Culture.
Nous devons désormais prendre en compte des phénomènes qui ne se situent plus dans la sphère économique. L'épuisement d'une ressource naturelle, un phénomène de pollution, ça ne se situe pas dans la sphère économique. Ces phénomènes sont irréductibles à la logique de l'économie. Le rythme de renouvellement d'une ressource naturelle, le rythme de croissance d'une forêt, ça n'a rien à voir avec la logique des prix sur le marché. Donc, il faut intégrer ces éléments sans pouvoir les réduire à notre logique. Mais d'un autre côté, l'économie a sa propre logique. Donc il faut intégrer ces éléments sans dissoudre toute la problématique économique dans cette logique de la biosphère. Le problème, c'est d'arriver à en tenir compte et à conserver le caractère spécifique de chacun de ces mondes qui se trouvent ainsi confrontés. Le monde de la production et de l'échange, et puis le monde naturel, ce milieu naturel qui a ses propres mécanismes et ses propres finalités.
La voix donc de René est passée. Je referme là cette parenthèse. Place à notre question d'actualité du jour. L'Union européenne est-elle prisonnière de sa dépendance technologique ? Réponse grâce à l'étude d'un cas d'école, celui de l'entreprise de semi-conducteurs Nexperia.
We are in the middle of a seismic shift in how countries work with each other.
Nous sommes au cœur d'un bouleversement radical dans la manière dont les pays collaborent et s'opposent les uns aux autres. Chaque jour, nous voyons que les outils traditionnels de la politique sont utilisés pour transformer les interdépendance en armes et pour tirer parti des alliances. Nous constatons que ces outils traditionnels sont utilisés pour mettre des pays et des industries sous pression afin d'exercer un contrôle et d'imposer une coercition.
Ursula von der Leyen, le 25 octobre dernier, dressait ce sombre constat lors du Berlin Global Dialogue. Et il est vrai que les signaux d'alarme se sont accumulés ces derniers temps. Un cas emblématique, celui de Nexperia, entreprise spécialisée dans les semi-conducteurs, dont le siège est situé aux Pays-Bas, mais qui reste détenu à 75% par le groupe chinois Wingtech. Mercredi dernier, le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il n'en prendrait pas le contrôle, contrairement à ce qu'il avait annoncé quelques semaines plus tôt. Une annonce qui illustre à elle seule une forme d'impasse stratégique, technique, commerciale, diplomatique, et dans laquelle l'Union européenne se trouve vis-à-vis de la Chine. Retour donc sur les rebondissements de cette affaire Nexperia, si on peut l'appeler ainsi, et ce qu'elle nous dit de la stratégie industrielle européenne avec nos deux invités. Thomas Pardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et directeur du GERPISA, le groupe d'études et de recherche permanent sur l'industrie et les salariés de l'automobile. Également avec nous, Sacha Courtial, vous êtes chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et spécialiste des relations entre l'Union européenne et la Chine. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Alors pour bien comprendre à quel point l'histoire de Nexperia est emblématique, il faut remonter un peu loin dans le temps. Au départ, Nexperia est une division de Philips, qui est même le géant néerlandais de l'électronique, filiale dont Philips se sépare en 2006, qui prend le nom de NXP et qui reprend le catalogue des produits semi-conducteurs de Philips. En 2017, cette filiale est rachetée par une société d'investissement chinoise, puis elle est revendue en 2019 à la holding chinoise Wingtech, celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors pour commencer, Sacha Courtial, ce rachat en 2019, le fait qu'aujourd'hui on ait un actionnaire chinois largement majoritaire, à hauteur de 75%, ça ne pose de problème à personne dans l'absolu. Il n'y avait aucune loi, aucun dispositif législatif qui empêche ce genre de rachat d'une entreprise européenne.
Alors, en 2019, effectivement, ça dérange pas grand monde. Pourquoi ? Parce que, en fait, le monde a beaucoup changé depuis 2019. C'est facile de le voir avec notre regard de 2025, mais à l'époque, les autorités européennes ont déjà les yeux sur les puces les plus avancées, donc les GPU, mais pas sur les puces électroniques qui sont moins importantes dans la conception, comme celles que produisent Nexperia. D'une part, ensuite, c'est une vente qui, en termes de volume, 3,8 milliards d'euros dans le secteur, n'est pas si importante, donc elle passe relativement inaperçue. Et puis ensuite, depuis 2019, le Covid est passé par là. Les entreprises, les autorités se sont aperçues qu'il y avait des risques de pénurie dans tout un tas de secteurs. Et ce sont réellement ces pénuries qui ont réactivé un logiciel géopolitique en Europe par rapport à avant un fonctionnement très géo-économique des choses. Ce qui compte, c'est les bénéfices. Ce qui compte, c'est qu'une entreprise européenne se porte bien, qu'elle ait une direction chinoise, enfin une propriété chinoise ou américaine, ce n'est pas très grave. Et en fait, on se rend compte que ça peut avoir un impact sur les chaînes de valeur. Et donc, il y a ce décalage entre ce qu'il se passe dans le Covid et ensuite la réaction politique qui n'arrive que 2-3 ans après.
Sacha Courtial, j'ai une petite question qui est d'ordre plutôt juridique, mais je ne sais pas si vous aurez la réponse. Quand on a un actionnaire de l'ordre de 75% qui est chinois, on parle tout de même d'une entreprise qui reste néerlandaise. Ça ne pose pas de problème. Qu'est-ce qui fait que cette entreprise est foncièrement néerlandaise alors même que son actionnaire est chinois ?
Ensuite, il y a la propriété des usines qui ne sont pas forcément à 100% chinoises.
Il y en a deux en Europe, je crois, une en Allemagne, une en Grande-Bretagne et les
voilà,
trois autres sont ailleurs.
Il y a ce rachat en 2021 d'une usine britannique qui produit davantage de puces, qui élargit la gamme de production de Nexperia. Et c'est ça aussi qui met la puce à l'oreille, entre guillemets, aux autorités européennes, de se dire, effectivement, on avait un fleuron sous contrôle européen qui produisait, qui produit de plus en plus et qui est passé sous pavillon chinois. Et là, on commence à s'inquiéter, effectivement.
Alors, ce rachat par un homme d'affaires chinois, je le disais, avait valu à Nexperia d'être placé sur une sorte de liste noire par les États-Unis. C'était le cas de Nexperia. Est-ce qu'il faut comprendre, Thomas Saupardi, que Nexperia n'exportait absolument aucun élément, aucun produit, aucun semi-conducteur vers les États-Unis?
Non, et d'ailleurs, l'Association américaine des constructeurs s'est alarmée du blocage des Nexperia par les autorités chinoises, et qui montrait bien qu'il y a encore des exportations vers les États-Unis. Et il faut savoir que cette liste noire a été introduite assez récemment. Parce que les Américains aussi, comme les Européens, se sont intéressés d'abord aux puces électroniques des dimensions vraiment très très petites. Il faut savoir que les progrès technologiques dans les puces électroniques, c'est mesure un nanomètre. Plus c'est petit, plus c'est puissant. Chaque nouvelle génération déplace la frontière de la technologie. Aujourd'hui, c'est les moins des 5 nanomètres qui font la loi pour tout ce qui est intelligence artificielle, alors que les restes, et notamment les types de puces qui produit Nexperia, font partie de ce qu'on appelle les legacy chips. C'est les semi-conducteurs d'ancienne génération, qui sont extrêmement importants pour la production automobile, par exemple, mais qui technologiquement ne sont pas si avancés que cela.
D'où et le donc, fait qu'on disait à l'instant que ça n'avait pas forcément alerté dans un premier temps.
Ça n'avait pas alerté dans un premier temps, et c'est juste dans un deuxième temps que les Américains se sont rendus compte qu'il y avait une stratégie chinoise, puisque les Chinois sont bien conscients qu'ils, pour l'instant, ils n'ont pas des voies d'entrée sous cette frontière de la techno, ils ne sont pas là. Bah, ils se sont dit, bah, on va, nous, devenir dominants sur les anciennes technologies. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est un point aveugle aussi de la politique européenne qui considère que protéger les anciennes technologies, c'est une mauvaise idée. Hein, parce que au fond, là, c'est les marchés qui dictent sa loi. Si une entreprise européenne veut s'approvisionner en Chine, en Corée, au Japon, c'est pas grave sur les anciennes technos, puisque c'est les marchés qui dictent la loi. Et alors, il faut concentrer les protectionnismes stratégiques et les initiatives industrielles sous les nouvelles technologies. Et c'est pour ça que donc cet rachat des Nexperia était passé hors radar. Or, d'un coup, les Américains disent en 2024, et non, nous on va mettre dans la liste noire aussi ces producteurs-là, parce qu'on anticipe qu'en 2030, 40% de la production mondiale de ces types de chips, hein, de ces types de puces électroniques, sera concentrée en Chine si on ne fait rien. Et donc, c'est par ricochet qu'on arrive en 2025, avec un élargissement de la liste, un ensemble des filiales détenues par du capital chinois, et donc Nexperia entre dans la liste, et de manière assez rapide, les gouvernements néerlandais réagissent en disant on ne veut pas risquer qu'un Nexperia soit interdit des commerces vers les États-Unis. Et c'est donc sous influence américaine qu'ils décident de prendre les contrôles d'un Nexperia.
Et c'est là le début de la crise qui nous intéresse aujourd'hui, qui démarre le 30 septembre dernier, lorsque l'État néerlandais place donc Nexperia sous tutelle, invoquant pour la première fois une loi d'urgence qui n'avait été jusqu'ici jamais utilisée. C'est le Goods Availability Act, la loi nationale sur la disponibilité des biens. Une décision que justifiait Vincent Carmont, ce ministre néerlandais des Affaires économiques, le 19 octobre dernier, et à laquelle réagissait ensuite He Yadong, porte-parole du ministère chinois du commerce. C'était le 6 novembre 2025.
Si je n'avais pas pris cette décision et si le PDG chinois de Nexperia avait réussi à couper tout approvisionnement de semi-conducteurs en Europe, l'Europe aurait été dépendante à 100% des connaissances, de l'expertise et des capacités du reste du monde en matière de semi-conducteurs. Cela aurait créé une situation de vulnérabilité alors que nous sommes déjà en temps de crise.
He Yadong, porte-parole du ministère chinois du commerce, le 6 novembre 2025. L'ingérence injustifiée des Pays-Bas dans les affaires internes de Nexperia a semé le trouble et le chaos dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs. Le gouvernement néerlandais a ignoré les multiples préoccupations légitimes soulevées par la Chine lors des consultations, n'a fait preuve ni d'une attitude ni de mesures constructives et a encore aggravé la crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement. Les Pays-Bas doivent en assumer l'entière responsabilité.
Voilà, on entendait la réaction du côté de la Chine. Et c'est vrai, Sacha Courtial, on pourrait se dire, cette décision-là n'est pas anodine. Je le disais, cette loi qui a été mobilisée n'avait jamais été sortie, on va dire, de son sac depuis qu'elle avait été instituée en 1952. Qu'est-ce qui a précipité une telle décision qui est très très loin d'être anodine?
C'est l'avancée de la dépendance européenne dans tout un tas de domaines. Comme je le disais, on a un basculement entre un système où la géoéconomie prévalait vers une prise de conscience où l'Union européenne dépend à 60 ou 70% de l'extraction des terres rares chinoises, à plus de 90% du raffinage, qui est en fait la vraie étape clé, puisque tout ce qu'on pourrait utiliser comme terres rares, si elles ne sont pas raffinées, il faut les renvoyer en Chine avant de pouvoir les réimporter. Les batteries dans le domaine des véhicules électriques sont également à 75% contrôlées, la production est contrôlée par la Chine. Et on pourrait aller dans d'autres secteurs, hein, comme le secteur des médicaments. On s'est rendu compte pendant le Covid que un grand nombre des principes actifs, 60 à 80%, étaient dépendants aussi de Pékin. Et donc c'est ce réveil-là qui fait, en l'absence d'une coordination européenne réelle sur tout un tas de sujets, on pourra y revenir, précipite certains gouvernements nationaux à prendre des décisions par eux-mêmes.
C'est extrêmement intéressant ce qui s'est cristallisé aussi à ce moment-là, Thomas Sopardi, parce qu'il y a une espèce d'escalade après cette décision-là. Il y a eu la riposte de la Chine qui, dès le 4 octobre, bloque les exportations de puces finies de Nexperia depuis les usines chinoises. Le ministère des Affaires étrangères de Pékin avait exhorté les pays concernés à adhérer pleinement aux principes du marché et à s'abstenir de politiser les questions économiques et commerciales. C'est exactement ce que vous nous disiez à l'instant, Sacha Courtial. Et puis surtout, au niveau européen, il y a eu une espèce de panique, ou en tout cas de branle-bas de combat. Dès le 22 octobre, tout le secteur automobile allemand était en ébullition. On a eu le quotidien Bild qui avait laissé entendre que plusieurs usines de Volkswagen seraient obligées de fermer faute d'approvisionnement dans ces fameuses puces. Et puis de fait, le gouvernement allemand avait réuni le mercredi 22 octobre au soir tous les industriels, tous les représentants de ce secteur-là automobile. Thomas Sopardi, comment comprendre cette fébrilité-là, cette panique-là qui s'est emparée? Est-ce qu'effectivement, il n'y avait aucun moyen de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement? Est-ce qu'il y avait vraiment cette idée d'une forme de dépendance totale et absolue vis-à-vis de Nexperia?
Nexperia, apparemment, représente vraiment un acteur important pour l'automobile. Ça, je ne le savais pas, puisque l'automobile achète plus des 2000 pièces et composantes différentes, donc c'est compliqué d'avoir une idée précise des acteurs importants. On sait pour ce qui est des freins ou des phares, que des entreprises comme Valeo, Bosch et Forvia sont des acteurs qu'on connaît bien, au Gerpisa. Mais c'est vrai qu'Nexperia ne faisait pas des entreprises que je connaissais bien. Et donc, apparemment, ça représente jusqu'à 45% selon les constructeurs de l'approvisionnement de ces types de pièces et composantes. C'est qui est important. Après, il y a des alternatives. Il y a des entreprises comme Texas Instruments Visteon qui sont américaines et allemandes qui peuvent pallier ces problèmes d'approvisionnement. Sauf que l'industrie automobile fonctionne, on le sait, avec très peu de stock. Et entre les moments où la crise commence et les moments où l'industrie automobile allemande s'alerte, bah, il passe 2-3 semaines, c'est justement le temps que les stocks s'épuisent. Et les engagements contractuels de Nexperia étaient devenus nuls, puisque la partie chinoise dit, bah, étant donné que la partie européenne ne fait plus partie de notre groupe, nous, on ne va plus livrer ce qu'on s'était engagé à livrer. Et à ces moments-là, pour les constructeurs, il y a des alternatives, mais elles sont très coûteuses, hein, parce que les engagements contractuels qu'on avait fait auparavant ne valent plus, et chercher des nouvelles pièces et composantes pour substituer celles qui ne sont plus disponibles, ça coûte entre 10 et 15 fois plus cher en ce qui concerne ces puces électroniques.
Surtout qu'ils sont en position de force, donc on imagine bien qu'ils...
Donc on voit bien que tout cet enchaînement n'avait pas été prévu du tout par les gouvernements néerlandais, qui aussi, apparemment, ne savaient pas qu'il y avait un goulet d'étranglement extrêmement important en Chine, étant donné que l'ensemble, presque 70% de la production européenne, doit répartir en Chine pour être confectionné, transformé, afin de revenir en Europe ou aux États-Unis auprès des constructeurs. Et donc, les Chinois ont simplement fermé les robinets et ont plongé l'industrie automobile dans une crise qui ne s'est pas produite, mais qu'on a vu avancer. Hein. Donc, Bosch avait commencé à mettre en arrêt un certain nombre de ses usines, et c'est là annoncé la suite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu un vent de panique. On est intervenu très rapidement pour arrêter l'incendie.
Un vent de panique qui a potentiellement pris fin mercredi dernier lorsque le gouvernement néerlandais a finalement renoncé à cette idée de mise sous tutelle. Sacha Courtial, comment comprendre cette décision? Et puis, on parle là de deux acteurs, le gouvernement néerlandais, le gouvernement chinois. Est-ce qu'il ne manque pas là un échelon, selon vous, un maillon peut-être, qui serait justement des négociateurs délégués, on va dire, au sein de l'Union européenne? Est-ce qu'il n'y a pas un manquement de ce point de vue-là?
Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne, elle est à peine en position d'égalité pour traiter avec la Chine. Donc ce n'est pas le gouvernement hollandais qui va être en rapport de force avec le gouvernement chinois. C'est intéressant de comprendre quelle est la position de la Chine vis-à-vis de ça. Déjà, si on regarde d'un point de vue technologique, il y a un rapport de l'ASPI, qui est un institut australien de recherche, qui chaque année présente l'avancée à la frontière technologique dans les domaines les plus importants. Vous regardez, ils listent 64 domaines technologiques. La Chine est première dans 57. Les États-Unis dans 5, l'Union européenne dans 2. Donc on voit qu'il y a une avancée beaucoup plus importante, même qu'on peut le percevoir peut-être dans l'opinion publique européenne, de la Chine technologiquement. Sur les questions commerciales, la Chine a une approche très simple, c'est que quand elle est en désaccord avec quelque chose, on a entendu la voix de son représentant, ils le disent et ensuite ils agissent immédiatement. Ils ont coupé la chaîne de valeur immédiatement, ce qui a obligé les Européens à réagir là-dessus. D'un point de vue chinois, que voit la Chine, que fait l'Union européenne d'un point de vue de la Chine? Elle se plaint beaucoup. C'est ce qu'on a vu lors du sommet UE-Chine de juillet dernier, qui est le sommet un petit peu annuel, où l'Europe était venue avec tout un tas de revendications, de listes de plaintes. Mais derrière, il n'y a pas de vraie position, de vraie prise d'action. Or, maintenant, il faut se dire que lorsqu'il y a des manquements de réciprocité entre l'Union européenne et la Chine, il faudrait agir immédiatement. Par exemple, quand la Chine protège son marché, comme elle le fait sur les projets publics, vous savez, il y a une part qu'elle a réservée aux entreprises chinoises, 20%, ce qui est contraire aux règles de l'OMC. L'Europe, 100% des projets publics peuvent être gagnés, remportés par des entreprises de tout pays. Nous devrions faire un acte en réciprocité et dire, très bien, si la Chine protège à 20%, nous allons discriminer 20% des entreprises chinoises à nos projets publics européens.
Thomas Pardy, sur cette question de la coordination européenne, parce qu'on a parlé, c'est vrai, du cas néerlandais, donc qui a été, mis sous les projecteurs. On a aussi parlé de la force de l'industrie automobile allemande. À chaque fois, ce sont des nationalités, alors certes d'États membres de l'Union européenne, mais il y a presque un côté très individualiste là-dedans. Est-ce qu'il manque effectivement une forme de coordination au niveau européen?
Le problème, c'est que le gouvernement européen, c'est un gouvernement par définition incomplet. L'Europe a vocation à réguler les marchés uniques. Il a vocation donc à réguler les frontières commerciales. Il a la maîtrise de la monnaie via l'euro et de la diplomatie économique. Mais il ne prend pas des décisions économiques. Il peut décider de réguler des secteurs économiques. Il peut permettre certains investissements d'avoir lieu ou pas. D'ailleurs, sa doctrine a été jusqu'à maintenant assez sévère là-dessus. C'est une doctrine très basée sur la concurrence et donc qui a limité pendant très longtemps les aides d'État, mais n'a pas vocation à intervenir sur les questions économiques qui sont des compétences des États. Et donc, on a ce gouvernement incomplet de l'économie qui nous rend extrêmement vulnérables face à deux puissances, qui sont la puissance américaine d'un côté qui a désormais bien saisi qu'il y a un problème avec la Chine, et la puissance chinoise qui a une volonté hégémonique extrêmement forte dans l'ensemble des filières stratégiques. Et l'Europe n'y dispose pas de tous les manettes pour se défendre. Cette canne Hesperia en est une parmi d'autres exemples, hein, parce qu'on voit bien que l'Union européenne a été pendant très longtemps absent, et il faut bien rappeler que la résolution du problème Hesperia n'est pas venue d'une rencontre ou d'un accord entre l'Union européenne et la Chine, mais de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée.
C'est les États-Unis.
Voilà. Et donc les États-Unis ont dit, bon, on va geler la liste noire pendant une année parce que les Chinois contrôlent les terres rares dont l'industrie IA, dont on parlait au début de l'émission, dépendent complètement aux États-Unis. Et donc les Chinois ont obtenu aux tables des négociations que les cannes Hesperia soient immédiatement classé. Et donc les Pays-Bas n'ont pas réagi à une injonction de la part européenne, mais dans une injonction de la part américaine, qui lui aura dit d'abord de prendre contrôle de Hesperia, et puis ensuite il lui a dit, là maintenant ce n'est plus le cas, vous pouvez abandonner toute velléité et revenir à la situation auparavant. Donc ça montre bien à quel point les États-Unis sont pris, l'Union européenne est prise à un étau entre deux stratégies, des découplages économiques, des volontés hégémoniques américaines et chinoise, et n'a pas les moyens d'y répondre.
Et c'est dans tout cela que le cas Nexperia est emblématique. Un grand merci à tous les deux. Sacha Courtial, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Thomas Pardy, vous êtes sociologue chargé de recherche au CNRS et directeur du GERPISA. Place désormais à l'histoire de la pensée économique. Et aujourd'hui, on plonge dans les coulisses de la prévision économique. Qui sont les économistes qui tentent d'éclairer les décisions de politiques économiques et comment y parviennent-ils? Avec quels outils? Des hommes et des machines, ou quand l'information l'informatique et les mathématiques rencontrent l'économie. C'est le programme de cette seconde partie d'émission.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Augmenter les dépenses pour l'éducation ou la recherche ou les aides aux entreprises, favoriser la production de biens exportables ou soutenir la consommation des ménages, toutes ces décisions entraînent des réactions en chaîne et ont des effets bien différents sur la croissance, la productivité, des effets trop importants pour que ces décisions soient prises au hasard. Alors pour abolir ou au moins le minimiser ce hasard, des hommes ont décidé de mettre en place des équations, des algorithmes capables de calculer ce qu'il se passe pour l'économie lorsque l'on touche à telle ou telle variable. C'est le rôle de la prévision telle qu'elle s'institutionnalise dans les années 50. Plongée dans cette histoire technocratique de la prise de décision économique et donc politique avec notre invitée du jour, Loipa Muniz-Duarte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences économiques, spécialiste de l'histoire de la pensée économique et vous êtes rattaché au laboratoire Triangle de Lyon 2. On vous doit un ouvrage paru chez Classique Garnier intitulé « Les pratiques de modélisation macroéconomique en France entre 1950 et 1975, la fabrique de l'expertise économique ». C'est le titre de cette série d'Entendez-vous l'écho qui se poursuit donc aujourd'hui avec ce deuxième épisode qui démarre dans le contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale, contexte de l'avènement d'une véritable révolution selon l'économie. Claude Gruson.
La grande révolution consiste, si vous voulez, à introduire des analyses rationnelles fondées sur tout l'acquis de la connaissance scientifique dans les processus économiques. N'est-ce pas ? Au fond, c'est ça, c'est ce mariage extraordinaire, n'est-ce pas, de la recherche scientifique et de la vie économique qui caractérise les sociétés modernes. Et ça, c'est une chose assez récente, n'est-ce pas ? C'est une chose qui, disons, date de l'après-guerre.
La voix de Claude Gruson, micro de Jacques Chancel, c'était en 1972. Loipa Muniz-Duarte, est-ce qu'on peut effectivement parler d'une sorte de révolution scientifique, d'une révolution de la rationalité à la toute fin des années 40, début des années 50, en ce qui concerne les politiques économiques et donc l'établissement des budgets? Est-ce que c'est cela qui se passe?
Oui, bonjour. Tout premièrement, merci de m'avoir invité. Oui, en fait, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'expertise économique en France commence une réelle révolution, surtout au sein des grandes administrations. Je parle principalement du ministère des Finances et le commissariat général au plan. En fait, tout est nouveau, tout est à refaire, tout est à faire, principalement tout ce qui est expertise économique.
On est dans un contexte de reconstruction aussi. On commence en 1948, je crois, on a un espèce de bilan national qui permet un peu de mettre les choses à plat, d'avoir une meilleure vision aussi, oui, de ce dont a besoin l'économie française. On peut dire que c'est quelque part l'ancêtre du budget économique de l'État. Pourquoi c'est important d'insuffler un souffle de rationalité à ce moment-là, Loipa Muniz-Duarte?
En fait, à ce moment-là, il faut rappeler le plan Marshall. Il faut organiser toute l'économie. Il faut présenter ça d'une manière organisée, non seulement pour la France, mais surtout pour les États-Unis.
Parce qu'il faut cet argent.
Exactement. Mais il faut surtout que le message pour les Français ne soit pas: il faut qu'on s'organise pour les Américains, il faut qu'on s'organise parce que la France a besoin de reprendre les forces, il faut qu'elle reprenne l'élan qu'elle a perdu pendant la guerre.
Oui, mais il faut masquer l'idée d'une ingérence américaine.
Exactement, surtout ça, et c'est en partie vrai, il ne faut pas s'organiser seulement pour les Américains, il faut toute une économie qui est à plat. Et pour ça, il faut voir quels sont les besoins de l'État. Donc, il y a ce premier bilan, le bilan national fait par URI, et qui va donner les premiers élans pour justement l'équipe de Claude Gruson.
URI, qui est donc Pierre URI, hein, qui on va dire, est membre de la commission du bilan du commissariat général au plan. Il est normalien, il est professeur de philosophie, ce qui peut, oui, paraître étonnant. Un autre personnage qu'on entendait à l'instant, c'est Claude Gruson. Oui. Pour celles et ceux qui étaient là la semaine dernière, il a aussi clôturé notre épisode précédent. Alors, Claude Gruson, ce n'est pas n'importe qui. Il est membre de la commission financière du Conseil national de la Résistance. Puis, il est inspecteur des finances. Il a été membre de l'Institut français de la conjoncture d'Alfred Sauvy, dont on parlait aussi la semaine dernière. En 1948, il prend la tête du Bureau des études statistiques et financières. Alors, quelles sont les missions de ce Bureau des études statistiques et financières et qui y travaille, Loipa Muniz-Duarte?
En fait, le Bureau, c'est l'un des plus anciens bureaux de la France. Il date des années 1877. Quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et son but, c'était justement de gérer les statistiques françaises, gérer toutes les statistiques des administrations françaises, les centraliser et pour que toutes les administrations puissent, enfin, le ministère des Finances puisse avoir accès et gérer toutes ces données. Avec l'arrivée de Claude Grusson, qui est une décision prise par François Bloch-Ligny, c'est une décision consciente pour connecter justement tout ce qui est bilan. Donc bilan national et les premiers budgets économiques, avec cet organisme qui va gérer les statistiques, qui est donc le plus à même de préparer les comptes nationaux de la nation.
Sachant, Loïc Pamizuerté, qu'à la même époque, deux ans plus tôt, je crois en 1946, il y a tout de même la création de l'INSEE en soi. Quelle différence finalement entre les deux institutions?
En fait, ça va être une lutte de pouvoir tout le long de l'après-guerre. À chaque époque, on va définir des règles un peu claires, mais en réalité pas aussi claires que ça. Parce que, l'INSEE va toujours garder une autonomie assez importante, alors que le BSEF, après le CEF, va être une dépendance du ministère. Donc, c'est voulu que le bilan et après les budgets économiques soient faits par l'équipe de Grusson, puis les CEF, et pas par l'INSEE. Parce que ça va appartenir, en quelque sorte, au ministère des Finances.
Bon, il y a des petits enjeux de pouvoir.
Ah oui, ça va être présent tout le long de l'histoire des administrations françaises d'après-guerre. Il y a une lutte de pouvoir entre les deux.
Et si on vous comprend bien, Loïc Pamizuerté, il y a cette idée finalement que dans cet immédiat après-guerre, donc toute fin des années 1940, on peut dire que finalement la comptabilité nationale, ce qui ne fait pas forcément, on ne se doute pas forcément qu'il y a des enjeux de pouvoir très forts derrière, ce qui ne fait pas forcément rêver dans l'absolu. En fait, cette comptabilité nationale devient une forme de projet politique en soi. Est-ce qu'on peut dire les choses
oui,
comme ça?
Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'entends et j'essaie d'étaler cette idée dans le livre que vous avez présenté. C'est la comptabilité nationale ne devient pas seulement un outil neutre, c'est un outil pour, surtout pratique, pour prendre des décisions au niveau du ministère des Finances. Et pour cela, il faut le garder à l'intérieur du ministère et c'est pour ça que c'est l'équipe de Grusson qui mène ce projet.
Il y a ce contexte historique très particulier qui est celui aussi de votre ouvrage, vous le disiez. Alors je vais dépasser un peu cette chronologie-là. Est-ce que vous diriez que c'est encore le cas aujourd'hui que la comptabilité nationale est un projet politique en soi?
À l'heure actuelle, je ne saurais pas vous dire exactement, mais je pense qu'on a un peu dépassé ça. Parce que,
ça s'est apaisé.
Oui, on est déjà dans un monde très normalisé. Les comptes nationaux sont assez harmonisé non seulement en France, mais au niveau européen, mais aussi avec tous les systèmes des pays de l'OCDE.
Donc, il y a moins d'enjeux.
Il y a beaucoup moins d'enjeux au niveau de ça. Il y a toujours des spécificités à la France, on est bien d'accord. Chaque pays, il a ses spécificités, mais mine de rien, il y a toujours, en ces moments, une sorte d'harmonisation au niveau des pays industrialisés, on va dire.
Donc les choses ont été relativement lissées, recadrées
aussi. Depuis les années 80 surtout, c'est beaucoup plus lisse que les 30 années après l'après-guerre, ça c'est sûr.
Mais dans ces années d'après-guerre, on arrive là à un point crucial, Loïc Pamizuerté, c'est tout l'enjeu aussi de votre livre avec ce fameux bureau des études statistiques et financières. Au sein de ce bureau, Claude Grusson met au point ce qu'on appelle un modèle comptable. Alors il faut, avant toute chose, parce que ça va beaucoup nous occuper au sein de cette émission, nous expliquer ce qu'est un modèle en économie en soi.
En fait, un modèle, comme un modèle en ingénierie, c'est un système logico-mathématique qui va gérer des équations pour, on va donner des données indépendantes et on va obtenir une solution d'un agrégat. Dans ce cas-là, c'est des agrégats macroéconomiques. Donc, dans la pratique, on a trois grands blocs d'équations, les équations comptables, que c'est des conventions comptables qui vont s'établir. Il y a les équations de comportement, c'est là où il rentre l'économétrie, et il y a les équations institutionnelles, celles qui tentent de décrire un peu l'influence, comment les institutions vont venir intervenir dans cette économie. Je parle par exemple du prélèvement fiscal, des choses comme ça. Ça, c'est des équations institutionnelles. Voilà.
Loïc Pamizuerté, est-ce que avant ces travaux de Claude Gruson, mais d'autres aussi, avant cette très grande préoccupation pour la modélisation en tant que technique, finalement, aussi, il n'y avait aucune forme de mathématisation, pas de mise en équation au niveau national. Ça n'existait pas avant, cette idée qu'on va donner des données à manger, les traduire sous forme d'équation, et que ça nous donnera une forme de solution. Tout ça, cette mathématisation-là n'existait pas forcément.
Elle était très précaire, si vous voulez, parce que en fait, la manière d'interpréter l'économie avant, c'était beaucoup plus littéraire. L'économie en tant que science, c'est beaucoup mathématisé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la manière des la théorie économique était beaucoup plus justement une théorie, et il y avait de fortes réticences ici en France, je parle surtout, même pour Gruson, de comment transformer cette idée des lois économiques en numéro, si vous voulez, non, en chiffre, comment mathématiser ça. Donc je veux dire, enfin, c'est pour ça que on peut la modélisation en France, il y a cette idée qu'elle arrive très tardivement par rapport à d'autres pays comme par exemple les Pays-Bas avec Tim Bergen et les États-Unis par exemple. Mais il y a quand même toute une école d'ingénieurs qui est très très connecté avec tout ce qui est mathématique, qui est capable justement de faire des outils mathématiques. Le problème, c'est que la manière d'interpréter l'économie n'est pas forcément connectée avec cette mathématisation.
Est-ce que cette mathématisation, justement, et on arrive là à une question assez cruciale et qui va aussi nous accompagner tout au long de l'émission, mais est-ce que cette mathématisation, il faut la comprendre comme un synonyme de neutralité, d'objectivité par ceux qui la conçoivent? Est-ce que l'idée de se dire, bah voilà, c'est une équation qui m'a donné, on avait des données factuelles, c'est une équation qui m'a donné tel résultat, donc c'est que c'est objectivement faisable ou souhaitable? Est-ce que c'est ça l'idée?
En fait, c'est l'idée qu'on traite plus aujourd'hui. Mais c'est pas du tout, en tout cas, c'est que les archives montrent, c'est pas du tout la conception des économistes de l'époque. Ils sont conscients que derrière toute équation, il y a une théorie, et ça veut dire qu'il y a une partie prise. Parce qu'on n'est pas tous partisans du même type de théorie économique ou même de la vision du monde. Donc, cette neutralité de l'outil est plus une vision et un discours qu'on peut tenir plus aujourd'hui, je pense, qu'à l'époque. À l'époque, ils sont bien conscients qu'ils ne prétendent pas.
C'est ça, c'est même pas revendiqué, en fait.
Non, absolument pas. Absolument pas. L'objectif, c'est de créer des outils qui soient faisables, pratiques et facilement compréhensibles par le monde politique.
C'est intéressant sur l'intention aussi de ceux qui parviennent à mettre au point ces modèles. Alors les Gruson, les blocs Lenné, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qui les pousse à développer de tels outils? Alors il y a certes ce contexte d'après-guerre, mais finalement, est-ce que c'est une façon pour eux de se dire « je vais permettre, en tant qu'individu, mais je vais permettre aux politiques de prendre la meilleure décision possible » Est-ce qu'il y a une forme de presque de mission, de sacerdoce, de se dire en mettant au point ces modèles, je vais servir l'intérêt général? Est-ce que c'est ça qui ressort?
Oui, je pense qu'il y a quand même, surtout dans l'après-guerre, il y a une forte volonté d'agir en fonction du bien public, de l'intérêt général. Donc, toutes ces équipes cherchent vraiment à trouver les meilleurs moyens pour satisfaire cet intérêt général. Et pour eux, dans leur position, dans leur situation, et de trouver les meilleurs outils.
On l'a dit, Claude Gruson occupe une très grande part de cette histoire-là, cette histoire très liée aux instruments, aux outils. Il fonde en 1952 le service des études économiques et financières. Alors c'est, on peut dire, le successeur de l'institut précédemment cité. Et c'est là où il faut bien nous expliquer, l'OIPA, ministre Duarte, c'est qu'il y a tout cet ensemble d'institutions qui commencent à se mettre en place. Bon, il y a le commissariat général au plan d'un côté, j'ai évoqué également l'INSEE, ces institutions-là plus spécifiques qu'on connaît peut-être un peu moins. Dans l'épisode précédent, on a vu avec RIST, Pérou, Ossovie, qu'il y avait déjà des institutions qui cherchaient à conseiller ou à aider à faire en sorte qu'on prenne la meilleure décision politique possible. Qu'est-ce qui les distingue finalement? Qu'est-ce qui distingue ces institutions? Ouais. Très soutenu par des individus très, très spécifiques, mais qui ne font pas partie de l'administration française, de ces nouvelles institutions qui naissent au tout début des années 50.
Surtout, il faut rappeler que le bureau, c'est une structure très petite, hein, je veux dire, par rapport à l'INSEE et le commissariat général au plan. Ils sont, si vous voulez, il y a, si on essaie de placer ça au niveau hiérarchique, ils sont au même niveau, le plan, l'INSEE et le ministère des Finances, vous voyez. Et le bureau, c'est justement ça, c'est un bureau du ministère des Finances, vous voyez.
Oui, il y a l'affiliation.
Et ce qui se passe, ce qui se passe en 50, même pas en 50, parce que la création officielle, c'est en 52, c'est que ce bureau va obtenir le statut de service. Donc, si vous voulez, il monte d'un cran, il gagne en autonomie, il gagne en pouvoir face aux autres acteurs politiques, si vous voulez, ou économiques, qui sont les commissaires généraux au plan et l'INSEE. Mais ça reste toujours un service du ministère des Finances, dont le but, c'est surtout de conseiller le cabinet du ministre. Donc, le but, ce qui va le différencier, c'est une équipe qui va se consacrer, à la construction de la comptabilité nationale, mais surtout au conseil du ministre.
Et vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage Loïc Pamunis Duarte qu'à ce moment-là, l'économie devient une catégorie d'action publique en soi. Ça, c'est une forme de tournant aussi.
Oui, oui, ça, c'est là où justement ça, ils comprennent que le ministère, il faut qu'il garde ses services parce qu'il gagne dans un pouvoir d'action en créant ses propres outils, aussi bien la comptabilité nationale que le modèle pour construire le budget économique.
Et puis il y a un autre tournant, c'est celui du 25 mars 1957, alors qu'est signé le traité de Rome.
Ici Rome, au micro Jean-Rabeau, les ministres des pays de la communauté charbon-acier, France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Allemagne de l'Ouest, vont signer dans peu de minutes les deux traités d'Euratom et de marché commun destinés à, comme dit une affiche à poser sur les murs de Rome, à faire des six peuples une famille unique pour le bien-être de tous. La ville éternelle, avec ses dieux, ses monuments de tous âges, les accueille à l'aide de toutes ses splendeurs.
Au moment où nous allons signer à Rome, dans cette salle illustre du Capitole, ces deux traités, il importe de ne pas laisser s'établir dans le monde une confusion sur nos intentions. Sans doute, les six pays, en s'unissant, veulent-ils accroître leur capacité de production et accélérer le rythme de leur développement économique. Ils n'entendent pas pour autant s'isoler du reste du monde et dresser autour d'eux des barrières infranchissables. La France, malgré les difficultés que les circonstances l'obligent actuellement à surmonter, signe sur ce point les deux traités dans le même esprit que ses partenaires.
Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Christian Pinault, dans une archive du 25 mars 1957, une fois le traité de Rome signé et l'avènement du marché commun acté, qu'est-ce qui change en termes d'élaboration du budget, Loïc Pamunis Duarte ? Est-ce que les choses deviennent plus compliquées ?
Oui. Enfin, la tâche devient plus compliquée dans l'idée de maintenant on est ouvert à la concurrence, maintenant on est, il faut prendre des aléas en compte des commerces extérieurs qu'avant on pouvait gérer mieux de manière domestique. Donc la France est maintenant immergée dans un système multinational, si vous voulez, et il faut justement gérer toutes ces nouvelles aléas. La tâche se complique parce que maintenant, on ne peut plus gérer la chose seulement avec nos comptes nationaux à un an, N plus 1, si vous voulez. L'idée, c'est de se dire qu'il faut anticiper la chose et il faut jouer le jeu avec les règles que tout le monde va prendre. Quoi. Donc, les outils, il faut qu'ils évoluent. La comptabilité nationale, en tant que cadre logique, atteint ses limites et il commence, l'équipe des Grusson commence une transition vers la, on va dire, une mathématisation encore plus accrue des outils et donc pousse vers la construction des modèles économétriques.
Et d'ailleurs, c'est une période assez mouvementée, hein, cette fin des années 50 et surtout début des années 60 pour le service des études économiques et financières. Vous parliez des enjeux de pouvoir, notamment avec l'INSEE. Il y a un certain nombre d'individus qui sont déplacés, enfin qui vont voilà de ce service des études économiques et financières vers l'INSEE. La direction change également. Il y a pas mal de remous entre 61 et 64. Oui. Ce qui est intéressant, Loïc Pamunis Duarte, avec ce recentrage autour de la mathématisation, d'une forme peut-être plus technique, c'est que si on vous comprend bien, pour être un bon modélisateur, je ne sais pas si on dit comme ça, mais bon, pour intégrer ces équipes-là, il faut être familier avec la microéconomie, la macroéconomie, l'économétrie, être au fait aussi de la recherche théorique, parce que c'est aussi de cela que se nourrissent les modèles. Il faut également avoir des compétences en mathématiques, voire en ingénierie. Est-ce que les économistes qui rejoignent les rangs du service des études économiques et financières sont suffisamment bien formés pour cet exercice-là?
Je pense que pour cette époque-là, ils étaient pas mal formés. C'était quand même, il faut rappeler, il y a une petite précision, ce n'est pas qu'on gagne en technicité. Ils sont très, très exigeants dès le début. Hein. Sauf qu'il faut rappeler que pour construire un bon modèle, il faut des séries statistiques. Des séries statistiques qui n'existaient pas en France.
Il faut de la donnée pour nourrir la machine. En fait.
Exactement. Donc, si vous voulez, c'est une entreprise qui va durer presque 10 ans, construire ses comptes. Et encore, ils étaient très... Aujourd'hui, on rigolerait avec ses comptes. On dit, on peut rien faire. Parce qu'on n'avait même pas 10 ans de recul par rapport aux comptes qu'on réalisait, qui étaient un peu du
bricolage, oui.
Du bricolage, oui. On peut se permettre ce terme.
En insultant personne, bien sûr.
Non, mais c'est, ils savent, ils le reconnaissent même dans les archives, dans d'autres entretiens qu'ils faisaient. C'était un peu la science qui s'est construite au fur et à mesure. Donc, en 1957, il y a ce tournant parce que d'un coup, il y a le marché qui s'ouvre. Il y a aussi cette entreprise de la comptabilité nationale qui est presque à point. Et maintenant, ils ont des séries plus ou moins utilisables pour pouvoir construire des outils plus de type économétrique. Et encore, je reviens sur ça, ils sont justement, Grusson et les plus anciens, sont assez critiques de la manière comment l'économétrie va normaliser la vision de l'économie. On va enfermer le comportement des agents dans des coefficients qui, pour eux, ne sont pas toujours... comprennent pas forcément comment ce chiffre figé va être tout le temps utile à la prise des décisions.
Puis suite à cela s'ouvre une période d'institutionnalisation de la modélisation macroéconomique, parce qu'on est aussi passé à cette vision macroéconomique. Le 9 juillet 1965 est créée la direction de la prévision, qui est placée sous la tutelle du ministre des Finances. Toujours, il y a des enjeux là encore de distinction vis-à-vis du commissariat au plan. Bon, ce sont presque des enjeux de couloir. Qu'est-ce qu'il nous raconte cet épisode, Louis Pamis Duarte?
En fait, c'est le troisième échelon. Ils sont partis d'un bureau. Après, ils ont obtenu un service et maintenant, ils ont une direction. Après, avec beaucoup de difficultés entre-temps, ils arrivent justement à avoir un réel poids vis-à-vis de l'INSEE et du commissaire général au plan. Mais ça reste quand même sous la tutelle du cabinet du ministre. Donc, le plus important et pourquoi le service va survivre, c'est parce que justement, les ministères veut garder, si vous voulez, une équipe qui fournisse des données produites à l'intérieur de la maison, qui ne soient pas seulement externes. Et c'est pour ça que la direction de la prévision va naître, non seulement pour ça, sinon parce qu'il faut rappeler que le plan était aussi une dépendance du ministère, qui va perdre au début des années 60.
Pour aller au Premier ministre.
Valérie n'est pas du tout content avec ça. Et il dit qu'il faut réorganiser les rapports de force et on va créer la direction de la prévision.
Alors, on a envie de se demander, de savoir aussi ce qui se passe au sein de la DP, de la direction de la prévision. Alors, il se passe beaucoup de choses. Il y a énormément d'histoires que vous nous racontez dans votre ouvrage. Et puis, évidemment, on y conçoit des modèles. C'est tout le but. Et il y a le fameux modèle Zogol, qui est la contraction des noms de Olive et Herzog qui l'ont conçu. Il y a également un modèle qui arrive un peu plus tard, le modèle DECA, qui est mis en place en 1968, qui est remplacé ensuite en 1974 par le modèle STAR, qui arrive après 4 ans de travaux d'un autre groupe, le groupe de recherche macroéconomique. On va revenir sur ces modèles-là. Mais finalement, les modèles s'enchaînent assez rapidement. Est-ce que c'est normal?
En fait, ça peut paraître surprenant, mais c'est tout à fait dans leur logique. Parce que c'est des modèles un peu conçus comme des outils jetables, parce qu'ils sont toujours adaptés aux conditions économiques du moment. Donc, ils ne sont pas conçus dans l'idée de survivre dans le temps. Ils sont conçus de manière à être utilisés pour la construction du budget et, si besoin, le remplacer par un outil plus performant.
Alors même qu'un modèle, vous me le disiez en préparant cette émission, un modèle, ça coûte cher à établir, Eloy Pamines Duarte.
Tout à fait. Et, mais à nouveau, ça, c'est une caractéristique de l'époque. Comme vous dites, Sogol et Deka, ils ont été faits par des individus, si vous voulez. C'est Sogol, c'est fait par Herzog et Olive. Puis, ils sont faits par, enfin, Deka est fait par Biodo. C'est des personnes qui vont prendre la charge, c'est une charge de travail énorme, et ils vont faire un nouveau, un outil à leur sauce, quoi. C'est après, avec Stark, que ça devient beaucoup plus institutionnel. Et ça demande la coopération de beaucoup plus de personnes et des ressources beaucoup plus importantes.
Alors, on parlait du groupe de recherche macroéconomique qui se situe au sein de la direction de la prévision et qui contribue, vous le dites dans votre ouvrage, au développement d'un espace d'expertise économique au sein du ministère des Finances entre 1970 et 1974. On y retrouve des économistes de renom, hein, comme Robert Boyer, qu'on connaît bien ici, Entendez-vous l'écho, Jacques Mazier et Jacques Boulet. C'est aussi une nouvelle philosophie, quelque part, l'idée n'est plus de répondre le plus rapidement possible aux besoins du ministère, mais de se concentrer sur la théorie. Alors, pour mieux comprendre de quoi et de qui ce groupe est constitué, je vous propose d'écouter le témoignage de Jacques Mazier, qui est particulièrement éclairant. C'est un témoignage que vous connaissez bien, Eloy Pamines Duarte, puisque c'est vous qui l'avez récolté dans un entretien en mai 2019, dans le but justement d'alimenter vos recherches.
À l'époque, en définitive, la France était un peu considérée comme un espèce, un modèle de réussite économique. Hein. Et il y avait ce mythe un peu de l'appareil économique français, la planification. Il y avait des relations assez étroites entre la direction de la prévision et le commissariat au plan. Et Giscard était quand même quelqu'un extrêmement libéral, enfin extrêmement permissif, parce que à la direction de la prévision, c'était un repère quand même de, disons, de gens de gauche dans finalement le cœur même de la, disons, de l'appareil économique français, quoi. C'est quelque chose qui paraît assez étonnant. Maintenant, l'administration économique est extrêmement verrouillée. Bercy, c'est une forteresse, alors qu'à l'époque c'était très ouvert, quoi. Et Herzog, qui était avec Olive le premier auteur d'un modèle de court terme, qui s'appelait Sogol, Herzog était l'économiste du Parti communiste.
Oui.
Bon, donc c'était très curieux de voir cette espèce de grande, disons, ouverture économique de la direction de la prévision, du ministère des Finances à cette époque-là.
Ce que nous dit Jacques Mazier, c'est qu'il y a une politisation assumée au sein du groupe de recherche macroéconomique, mais aussi une très grande liberté. Est-ce que c'est spécifique à ce moment-là, Eloy Pamines Duarte? Comment on explique finalement cette coordination des différentes opinions politiques entre le ministère et ceux qui travaillent pour lui?
En fait, on va dire, si vous voulez, je vais être un peu caricatural, c'est les fourmis sont des gauches, et la reine est des droites. Mais en fait, tout le monde cohabite très bien. Et ce n'est pas qu'il y a une politisation. En fait, il a toujours eu, les gens ont toujours eu ces appartenances, mais ces appartenances n'ont jamais empêché les travail en commun avec l'un et avec les autres. Donc c'était une cohérence, justement, en fonction de l'intérêt commun à nouveau.
C'est toujours l'intérêt général qui
L'intérêt général qui prenait le dessus, toujours.
Eloy Pamines Duarte, il y a un dernier point que je voudrais aborder avec vous rapidement, mais c'est essentiel. Si j'ai trouvé cet extrait, c'est parce qu'il est disponible sur un site appelé Oral Histories of Economics. Oui. Quelle importance accordez-vous à ces traces orales? On y retrouve plein d'entretiens que vous avez menés pour vos recherches.
En fait, ça a été un projet, quand j'ai fait la thèse, j'ai toujours rêvé de faire une espèce de base de données comme ça. Et un très bon ami m'a proposé de pouvoir le mener à bien. Et j'ai collaboré avec eux. Et voilà, ça a pu être mis à disposition du grand public, aussi bien les académiques comme n'importe quelle personne peut consulter ces données.
Et nous aussi à France Culture, et plus spécifiquement, Entendez-vous l'écho, on accorde beaucoup d'importance évidemment à l'histoire orale. Et c'est vrai que cette série d'émissions est l'occasion d'entendre beaucoup de voix venues du passé. Et on ne s'attend pas toujours à ce qu'il y ait des traces. Et ça fait toujours plaisir quand on en trouve. Merci beaucoup, Eloy Pamines Duarte. Et je rappelle que vous êtes docteur en sciences économiques rattaché au laboratoire Triangle de Lyon 2. Votre ouvrage, Les pratiques de modélisation macroéconomique en France entre 1950 et 1975, paru chez Classique Garnier. Et vous restez avec nous parce que tout de suite, on retrouve Arnaud Aurin pour son fil de l'écho. Et aujourd'hui, Arnaud Aurin nous parle de la vraie question que posent les crypto-monnaies, à savoir la fragmentation de la souveraineté.
Le fil écho.
Vous entendez de plus en plus souvent parler de crypto-monnaies. Ce sont des monnaies électroniques, telles le Bitcoin. Ces crypto-monnaies ne sont pas rattachées à une banque centrale. Elles n'ont pas non plus cours légal. Un commerçant peut par exemple refuser un paiement en Bitcoin. Aujourd'hui, le débat public se focalise sur le fait qu'elles favorisent la criminalité, et surtout sur les dangers de leur volatilité. Mais la véritable question est celle d'une fragmentation de la souveraineté des États au profit d'institutions privées. C'était le cas il y a quelques siècles. Or, aujourd'hui comme hier, cette fragmentation risque de générer des conflits entre des États et certains acteurs privés devenus souverains. On distingue deux types de crypto-monnaies. Les premières, comme le Bitcoin, ne sont assises sur aucune réalité économique tangible. Leur cours varie beaucoup, mais leurs acquéreurs espèrent leur hausse constante. Les secondes, les stablecoins, sont émises par des acteurs privés, mais elles conservent une parité fixe avec l'euro ou le dollar. Dans un article récent, l'historien et économiste Eric Monet explique que Donald Trump favorise un crypto-mercantilisme. Par cette formule, il décrit une politique commerciale agressive pour obtenir des excédents commerciaux, comme dans le mercantilisme originel du XVIIe siècle, tout en conservant la valeur du dollar. Comment ? En encourageant les stablecoins, ces monnaies privées qui obligent leurs émetteurs à détenir des réserves en dollars. Or, dans l'histoire du capitalisme, de nombreuses monnaies privées ont existé. Jusqu'au début du XXe siècle, en Angleterre, des banques privées émettaient des billets. Ces billets n'avaient pas cours légal. Leur acceptation reposait sur la confiance. En France, sous la Révolution, des billets de confiance privés ont été émis, billets qui étaient cependant adossés aux assignats, le papier-monnaie de la Révolution. Des institutions comme les Compagnies des Indes européennes émettaient également leur propre monnaie. Achetant et vendant des épices et des textiles, mais aussi des esclaves, ces compagnies possédaient des armées, signaient des traités et importaient des lingots d'argent pour battre monnaie. Elles avaient ainsi tous les attributs de la souveraineté. D'ailleurs, elles étaient parfois en conflit avec les États auxquels elles étaient censées appartenir. L'Angleterre, la France, les provinces unies néerlandaises. Leurs pièces ont disparu avec ces compagnies au XVIIIe et XIXe siècle, dans un processus de centralisation monétaire. De nos jours, les monopoles américains de la tech veulent développer leur propre monnaie. D'abord, il devrait s'agir de stablecoins, adossés au dollar. Mais dans le futur, ces géants, qui possèdent eux aussi des attributs souverains comme des satellites et des câbles sous-marins, seront tentés de développer de véritables monnaies privées. Ce qui est d'ailleurs frappant, c'est qu'aujourd'hui des projets de crypto-monnaies, comme le Vogcoin, utilisent la Compagnie des Indes néerlandaises du XVIIe siècle comme modèle de monnaie privée. Le capitalisme, au XXIe siècle, voit donc un mouvement inverse de celui qui s'est produit au XXe siècle, siècle de la centralisation monétaire. Depuis une dizaine d'années, la souveraineté monétaire se décentralise et se fragmente à nouveau. Dans un tel monde, les États vont probablement devenir des acteurs souverains parmi d'autres, et peut-être moins puissants que bien des acteurs privés.
Merci beaucoup Arnaud, votre fil est à réécouter en podcast sur l'application Radio France, il y a une page qui lui est dédiée, et puis sur la page aussi du site de France Culture, là aussi c'est une page qui lui est dédiée. En revanche, pour retrouver cette émission avec toutes les références bibliographiques et sonores, c'est à la page d'Entendez-vous l'écho sur le site de France Culture que ça se passe, sachant qu'Entendez-vous l'écho, c'est aussi un podcast disponible sur l'application Radio France, un podcast auquel vous pouvez vous abonner pour suivre toutes nos émissions. Et puis Entendez-vous l'écho, c'est aussi une adresse mail, un contact, donc vous pouvez tout à fait nous envoyer des mails, nous raconter les sujets qui vous passionnent ou vos réactions à l'émission. On est toujours preneurs ici au sein de l'équipe et j'en profite pour remercier cette équipe composée cette semaine d'Anouk Milliot qui a tout préparé et de Serge Leroy qui a réalisé et mis en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine.